santé, Marina Mielzarek.
La grippe est une maladie contagieuse causée par un virus. Elle existe depuis très longtemps. On la connaît depuis l'Antiquité. Chaque année, la grippe touche des millions de personnes dans le monde. On l'appelle grippe saisonnière. Cette année, en plus de la grippe saisonnière, une nouvelle grippe est apparue. C'est la grippe AH1N1 2009. Le problème, c'est que cette grippe est nouvelle. Notre corps n'est pas encore habitué à la combattre, ce qui la rend plus contagieuse. C'est-à-dire que beaucoup plus de gens vont être malades, en très peu de temps, dans le monde entier.
Et le monde entier, ce sont 195 pays touchés par cet inquiétant virus H1N1, apparu, souvenez-vous, au printemps dernier au Mexique. Grippe, bilan, traitement, perspective, c'est le sujet du jour dans Priorité Santé. Soyez les bienvenus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous avertit, ça y est, la barre des 5000 morts est franchie. Le bilan s'alourdira dès l'arrivée des hivers froids sur le continent européen et dans plusieurs autres régions du globe. Mais bonne nouvelle, oui, allez, au moins une. Sous les tropiques, à l'exception de Cuba, de la Colombie et du Salvador, la grippe A connaît un net recul. Alors, pourquoi cette contradiction? Puisque en contactant le correspondant de RFI, nous apprenons qu'au Mexique, le virus non seulement continue de sévir, mais que, plus que jamais, la multiplication des contaminations effraie les populations. Alors, histoire de vérifier et de vous donner la meilleure information possible, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, dans Priorité Santé, avant même de vous présenter nos invités, partons pour Mexico pour faire le point sur l'épidémie.
Les autorités sanitaires mexicaines sont très inquiètes de l'évolution de l'épidémie de grippe humaine. Il y aurait actuellement 40 800 personnes atteintes par le virus H1N1. Un chiffre d'autant plus alarmant que durant ces dernières 24 heures, il y a eu 1311 nouveaux cas, dont 2 décès. Le ministre de la Santé répète chaque jour que tout est prêt pour faire face à cette épidémie. Pourtant, il n'a pas encore de vaccin. José Ángel Córdoba, ministre de la Santé.
Durant les 2 premiers mois, le vaccin contre le H1N1 ne sera pas disponible sur le marché, mais il sera distribué gratuitement à travers les institutions publiques de santé. Pour faire face à cette grippe H1N1, nous avons déjà signé un contrat avec un laboratoire français pour 20 millions de doses que l'on devrait commencer à recevoir dans le courant du mois de décembre. D'autre part, nous sommes en contact avec un laboratoire anglais pour le complément de 10 millions de doses afin de pouvoir garantir la couverture de 27 millions de personnes qui ont besoin d'être vaccinées.
Cette fin de semaine, le président Felipe Calderón a confirmé qu'un laboratoire français allait fournir 1 million de vaccins immédiatement, mais la population semble très éloignée des préoccupations du gouvernement. Il règne une grande suspicion sur le danger réel de cette grippe. Mircea González, interne des hôpitaux de Mexico.
Lorsqu'il y a eu la première vague de la grippe H1N1, la population a eu peur, donc elle a fait face en utilisant des masques, en fermant les cinémas, les restaurants. Et là, maintenant, on peut voir une baisse face à ce problème, car comme la population n'a pas vu vraiment de malades et de morts, alors la population pense que ça n'existe pas et que ce n'est pas assez grave comme ça devrait être. Au mois de mai, quand il y avait des grandes queues dans les centres de santé parce que la population avait peur. Mais là maintenant, la population a déjà oublié la gravité de cette grippe. Et là maintenant, ça recommence l'automédicalisation des personnes. Donc quand on arrive au centre de santé, c'est déjà un peu tard.
Dans les villages et les provinces les plus pauvres, où les services de santé sont très déficients, la population préfère là aussi ignorer le problème plutôt que de s'angoisser. Elia Garcia, gérante d'un petit centre de santé corporelle dans le village de Tlayacapan, à une centaine de kilomètres de Mexico.
La grippe no es un
La grippe n'est pas un problème à Tlayacapan. Les gens qui vivent ici pensent que ce sont des choses qui arrivent dans les grandes villes, mais pas chez eux. Réellement, ce n'est pas une préoccupation. Du reste, personne ne prend de mesures de précaution. Personne ne porte un masque et on ne parle pas de la grippe. On sait qu'il y a un risque potentiel, mais il n'y a pas d'angoisse parce que l'on vit dans une toute autre ambiance que celle de la capitale. Ici, déjà, il y a le bon air. On n'a pas toute la pollution qu'il y a à Mexico et puis on n'est pas submergé d'informations. Pour les médicaments, on sait que si on en a besoin, il faut aller à la sécurité sociale à Cuautla à 45 minutes d'ici, avec en main une ordonnance. Mais les médecins qui ont une compétence pour diagnostiquer une telle grippe sont inexistants dans notre village. Tout au plus, il y en a peut-être un capable de déterminer si oui ou non on a la grippe H1N1.
Le ministère de l'Éducation nationale est sur le qui-vive. Pour deux malades, on ferme la classe. Pour trois malades, on ferme l'école. Au lycée franco-mexicain, des mesures préventives ont été prises. Dominique Millet, professeur de français.
Alors, au lycée franco-mexicain, oui, beaucoup de mesures très concrètes ont été prises. On se lave les mains deux, trois fois par jour. En septembre, il y avait pas mal d'angoisse. Il y a même eu des absents qui n'avaient rien à voir avec la grippe H1N1. Mais c'était des petits rhumes et les parents, le temps de vérifier, etc. En octobre, il y a un certain relâchement, plus personne n'a peur. Effectivement, en cas de recrudescence, on a un programme d'enseignement par correspondance, ça marche par code, c'est très bien organisé. Chaque élève a un petit code secret, il peut correspondre avec la direction qui elle-même envoie les informations à chacun des professeurs dans chaque discipline pour éviter de perdre une période de l'année scolaire.
Avec la crise économique que traverse déjà le pays, les Mexicains choisissent la politique de l'autruche, estimant qu'il sera toujours temps, plus tard, de régler ce problème.
Vos questions par téléphone au 33 1 56 40 18 22 ou par courrier électronique à priorité.santé@rfi.fr.
Un reportage complet, donc venu tout droit du Mexique, que nous devons à notre correspondant à Mexico, Patrice Gouy. Merci à lui. Alors, voilà qui a le mérite d'être clair, hein, d'autant plus que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le nombre de cas mortels sera toujours en deçà de la réalité dans le monde, car les pays ne déclarent pas tous les cas, faute d'informations relayées lorsque l'épidémie s'installe dans les zones rurales les plus reculées. Et là-dessus, vous avez beaucoup de choses à dire, hein, professeur Jean-Philippe de Rennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc avec nous. Je vous présente, enfin, votre fonction, professeur de pneumologie au CHU, Centre Hospitalier Universitaire de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes aussi, Jean-Philippe de Rennes, l'auteur d'un livre, Grippe A/H1N1, Tout savoir, comment s'en prémunir, dont vous êtes le co-auteur avec l'un de vos collègues, le professeur Bruno Housset, c'est ça, je ne me trompe pas.
Oui,
un ouvrage donc paru aux éditions Fayard et un ouvrage très très complet, hein. Je le recommande à tous nos auditeurs. Bienvenue dans Priorité Santé, professeur. Et puis plus loin de nous, au téléphone, le professeur Jean-Paul Gonzalez. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également, professeur, hein, dans cette émission autour de la grippe H1N1. Alors, professeur, vous êtes directeur général du CIRMF. Alors, je prends ma respiration parce que c'est un peu long comme présentation. C'est le Centre international de recherche médicale de Franceville, au Gabon. Et vous êtes également directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Et vous nous appelez donc du sud de la France, hein.
Tout à fait.
Voilà. Alors, merci donc à vous deux d'avoir accepté l'invitation de Priorité Santé. Alors, tout de suite, on va faire référence à ce qu'on vient d'écouter au Mexique. Jean-Philippe de Rennes, puisque je l'ai sous les yeux, je ne sais pas votre réaction, Jean-Paul Gonzalez, mais en tout cas, avec Jean-Philippe de Rennes, on a vu qu'il était très, très attentif et que ça l'a fait beaucoup réagir, ce reportage à Mexico. Alors, je vais vous interroger tous les deux là-dessus. Ces différences entre les statistiques et la réalité de terrain, vous avez opiné du chef tout à l'heure,
oui,
professeur
Jean-Philippe de Rennes. On a des informations là-dessus. Déjà, des informations mexicaines, puisque lorsqu'il y a eu les 100 premiers morts mexicains dus à la grippe, une étude a été faite sur des morts par pneumonie, qui avaient exactement les mêmes critères épidémiologiques, c'est-à-dire c'était des gens beaucoup plus jeunes que d'habitude, et donc il y avait au moins le double de morts, et il disait que dans cet observatoire qui était censé couvrir le Mexique, en fait, ils étaient très 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 loin d'avoir le nombre total. Si on prend un autre exemple, qui est le Québec, au Québec, il y a un nombre de morts et un nombre de malades hospitalisés sans commune mesure avec tout le reste du Canada. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a, dans une hospitalisation, lorsqu'un malade est hospitalisé et qu'il a quelque chose d'un peu bizarre, on teste le virus et on le trouve. Résultat, on en trouve quatre fois plus que ce qui était annoncé. Donc il est vraisemblable, on peut ajouter à ça que sur les 1000 premiers morts américains, on considère, le gouvernement américain considère qu'il y a 2500 autres cas qui sont associés. Donc vraisemblablement, il y a dans ces pays qui ont des systèmes de santé tout de même relativement présents et compétents, probablement 4 fois plus de cas graves et 4 fois plus de morts qu'on ne le dit.
Professeur Jean-Paul Gonzalez, vous qui connaissez l'Afrique, des journaux se sont alertés le mois dernier en disant que le continent africain serait le plus touché, malheureusement, faute de données et puis faute de médicaments, évidemment.
Oui, voilà, pour l'Afrique, si vous voulez, comme disait la personne du Mexique du village,
du reportage,
je me souviens plus très bien, Bariaca, on n'est pas inquiet. Je veux dire, il y a des soucis de santé extrêmement, mais je dis extrêmement importants et qui dépassent totalement ce souci que pourrait nous donner cette grippe A, H1N1.
Mais pourquoi? Parce que vous pensez qu'elle ne va pas sévir vu le climat?
Parce que non, du tout. Du point de vue scientifique, si vous voulez, c'est pas un méchant virus, ok? C'est pas le H5N1 qui est un virus tueur, mais qui est un virus de poulet. Donc c'est pas un méchant virus. La grippe saisonnière tue, mais malheureusement on fait pas le diagnostic tous les ans, et donc on s'apercevrait que la mortalité par la grippe saisonnière est beaucoup plus élevée que celle qu'on peut présenter dans quel ouvrage. Donc on est sur une situation, si vous voulez, on se fixe sur ce AH1N1 pour des raisons que j'expliquerai pas aujourd'hui, et on se rend pas compte qu'on est dans une situation assez banale de circulation de la grippe.
Alors, professeur Jean-Paul Gonzalez, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que si vous étiez en studio avec nous à Paris, vous auriez vu votre collègue, le professeur Jean-Philippe de Rennes, dire, mais absolument pas, et s'offusquer, lever les yeux au plafond en disant mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, Jean-Philippe de Rennes.
Non, c'est pas ça. Non, je pense que il y a une confusion en ce qui concerne la grippe saisonnière. C'est que le diagnostic de grippe saisonnière est basé strictement sur des critères cliniques. Et lorsque l'on dit, par exemple, en 2007-2008, il y a eu 2 millions de cas de grippe en France, ce sont 2 millions de syndromes grippaux. Mais sur ces syndromes grippaux, il n'y a que 15% de grippe, c'est-à-dire à peu près 300 000 malades. Une pandémie, c'est quoi? Une pandémie, c'est un nouveau virus qui chasse les autres. Bien. Ce virus est beaucoup plus agressif que le virus saisonnier. On n'est pas dans quelque chose qui doit faire relever de la panique. Pas du tout. Néanmoins, on a, au point de vue clinique, des choses que l'on ne voit jamais dans la grippe saisonnière.
Et, c'est-à-dire,
c'est-à-dire que l'on a des pneumonies aiguës virales gravissimes qui ne survivent dans les pays développés qu'au prix de réanimation extrêmement lourde.
Puisque d'habitude, une pneumonie, on n'en meurt pas. La preuve, j'en ai fait d'une il y a 15 jours.
Hein. D'habitude, les
traitements antibiotiques, normalement.
Voilà, c'est ça. Les complications de la grippe sont de deux ordres. Ces premières sont surtout des complications bactériennes qui sont effectivement sensibles aux antibiotiques. Et ce que l'on voit fréquemment dans ce qu'on appelle les morts de la grippe, ce sont par exemple des malades atteints d'une insuffisance respiratoire chronique très sévère qui font au quatrième jour de leur grippe une poussée d'insuffisance respiratoire qu'ils amènent à l'hôpital et ils meurent au 38e jour d'une hémorragie méningée. Vous voyez, à la suite de ou bien c'est une maladie d'Alzheimer qui va être précipitée au bout de 10, 15, 20 jours à la fin d'une évolution qui sinon aurait été un petit peu plus longue.
Et donc avec
autre chose. On a par exemple, si on prend l'expérience d'Australie et de Nouvelle-Zélande, il y a eu 400 cas de pneumonie virale aiguë gravissime, encore une fois. Il y en a eu une dans notre hôpital, le chef de service de réanimation.
Donc à la Pitié-Salpêtrière,
à Paris. Il disait, mais tu sais, je n'ai jamais vu ça. Or, il a une soixantaine d'années. La question qui se pose pour la grippe, elle est double. La première, c'est comment repérer les formes qui vont être des formes très graves. Parce que moi, j'aime pas compter les morts. Parce que les morts de la grippe, c'est des échecs du traitement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de repérer les formes graves qui, si on les prend en charge, ne vont pas mourir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de protéger les autres. et en particulier de protéger toutes les catégories, par exemple les immunodéprimés, on sait qu'en Afrique il y en a beaucoup, hein, qui eux font des formes graves, et donc de les protéger par les différents moyens dont on dispose.
Nous reviendrons avec vous deux, hein, justement, sur ces immunodéprimés et puis les personnes donc à vacciner ou à traiter en priorité.
Priorité santé sur RFI.
Marina Mielzarek.
Voilà, bilan d'étape autour de la grippe A. Alors, nous sommes en ligne avec une patiente qui a souffert de la grippe A. Jovanka Darcinville, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous nous appelez donc de Montréal, hein ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Et alors, vous, eh bien, voilà, vous en avez été victime. Vous vous en êtes heureusement sorti. Grippe A, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fièvre, courbature. La température est montée jusqu'à combien, Jovanka ?
Jusqu'à 39. Ben, selon mon cas, mais ça peut varier de certaines personnes.
Et vous, comment ça s'est déclaré ? C'était juste, vous avez été soumise à quoi ? Des températures un peu variables, froid, chaud
Oui, pendant les deux premiers jours. Ensuite, la température est partie.
Ouais.
Ça a été des toux grasses, des courbatures, pas mal ça.
Et est-ce que vous savez, parce que vous avez été victime, je crois, de cette maladie sur votre lieu de travail, hein, ça vous a pris au sein même de l'hôpital où vous travaillez en tant qu'infirmière?
Oui, c'est ça. Mais en tant qu'externe, en tant qu'infirmier, c'est après les deux premières années d'études, on peut faire un stage durant l'été.
Mm-hmm. Et vous pensez que vous l'avez contracté auprès de malades parce que vous avez des cas, vous, dans votre hôpital?
Je pourrais pas dire l'hôpital, mais à l'étage que j'étais, il y en avait un. Puis, incluant deux autres infirmières, on a été en contact avec le patient, puis on a bien aimé contracter la grippe.
Ça veut dire que vous ne portez pas de masque à l'hôpital?
Oui. On portait des masques, on était en isolement. Mais certainement, par la suite, il y a eu des symptômes qui sont présentés pour mon cas la soirée même. Puis deux jours après, je me suis présentée à l'urgence. Puis on a fait les tests, puis ça s'est avéré positif.
Et confinement, j'imagine, c'est-à-dire où vous avez été confinée chez vous ou
pendant une semaine.
Pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, c'est passé.
Oui, je suis revenue à l'emploi, là. Je suis revenue à l'étage.
Eh bien, merci beaucoup, Jovanka, d'avoir été en ligne avec nous depuis Montréal et bonne journée.
Ben, merci à vous.
Merci pour votre témoignage.
De rien.
Alors, nous retrouvons le professeur Jean-Philippe de Rennes en studio et puis Jean-Paul Gonzalez au téléphone. Qui veut intervenir pour commenter un petit peu ces symptômes? En fait, petite grippe, enfin, petite température, mais contractée auprès des malades, même avec un masque. Jean-Philippe de Rennes.
Oui, probablement le masque, on le porte pas 24 heures sur 24, donc il est probable que la contamination a pu se passer aussi de manière par le contact aussi, hein, physique, si les mains sont sceptiques, ou par le fait que les habits peuvent porter pendant quelques heures le virus. Hein, ça représente bien un des problèmes des soignants. Puisque dans l'épidémie australienne, il y a eu 20 ou 30% du personnel qui a été en contact et qui est tombé malade. Alors, il n'y a pas eu de cas graves, tant mieux. Hein, mais c'est quand même un point qui est important.
C'est déjà l'heure de se quitter pour cette première partie d'émission. Jean-Paul Gonzalez, on vous fera beaucoup intervenir en deuxième partie d'émission. Ce n'est pas un adieu, hein, juste un au revoir. 3 minutes d'information sur RFI, puis on se retrouve tout de suite après.